13h-14h, Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez, chaque jour vous montrer qu'il y a en France des gens qui innovent, qui créent chez eux dans les associations, les territoires et aussi les entreprises. Et que c'est eux qui constituent la société de demain. Gros plan aujourd'hui sur l'univers de la piscine. Et vous allez voir que les tricolores ne manquent pas d'idées quand il s'agit de le révolutionner. Elle est née dans le Var, nous sommes en 1955. La tarte tropézienne est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous voulez peut-être faire un apéro mais sans alcool. La solution c'est Gueule de Joie, un site où vous pourrez acheter du vin et des cocktails. Mais sans risquer d'être ivre, c'est ça la France qui bouge, et c'est sur Europe.
Europe 1.
Et pour accueillir nos invités, parce que vous allez voir que cet univers est en train d'évoluer sous l'impulsion de Français qui innovent, pour accueillir ces invités aujourd'hui, à mes côtés, il y a Benjamin Lévesque. Bonjour Benjamin.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes.
Et notre coach Catherine Testa, fondatrice de l'Optimisme et du Club des Chief Happiness Officer. Bonjour Catherine.
Bonjour Raphaël.
Quand les premiers rayons de soleil sont au rendez-vous, c'est-à-dire pas comme aujourd'hui, on a tous envie de commencer à lézarder, vous êtes d'accord? Et si on n'a ni jardin, ni piscine, c'est vrai que c'est difficile d'aller piquer une tête. Alors, une idée a germé dans la tête de la fondatrice de Swimmy, justement. Bonjour Raphaël de Monténard.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Tout commence à Lyon, je crois qu'on est à l'été 2016, et vous êtes justement au bord d'une piscine. Vous dites que ce serait quand même formidable qu'on puisse recenser celle qu'il y a tout autour de nous et proposer peut-être être aux propriétaires de les louer.
Exactement, vous avez très bien résumé. Tout a commencé l'été 2016 et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait plusieurs piscines qui n'étaient pas 100% utilisées. Et donc on s'est dit, finalement, pourquoi pas recenser une plateforme, plutôt créer une plateforme qui les recense et qui permette en fait aux propriétaires à la fois de les partager et puis finalement de les rentabiliser un peu plus.
Mais dites-moi, c'est quand même pas très simple de prêter ou de louer sa piscine. On n'a pas forcément envie de le faire. Comment est-ce que vous y êtes pris pour convaincre justement les propriétaires?
Alors, en fait, nous, sur notre plateforme, c'est assez simple. Il suffit juste d'ajouter votre piscine, de la décrire et puis de la proposer, de mettre les dates auxquelles elle est disponible.
Oui, mais moi, je remonte à l'origine. Vous avez fait comment pour avoir les premiers qui sont inscrits sur votre site, qui ont été d'accord pour louer?
Alors, on a fait comme beaucoup de plateformes d'économie collaborative. On les a appelés, on s'est présentés, on a expliqué qui on était, on a expliqué ce qu'on faisait. Et puis, les premiers, on les remercie encore énormément. C'était des téméraires. Ils ont dit, on veut bien tester. Et en fait, aujourd'hui, c'est des propriétaires qui peuvent vraiment bien rentabiliser leur piscine puisque certains gagnent jusqu'à 5 800 € dans la saison juste en louant leur piscine.
Ouais, ça marche un peu comme Airbnb finalement.
Exactement.
C'est le même principe.
Tout à fait, c'est exactement le même principe. Donc, vous proposez votre piscine à la location pour une après-midi, pour une journée, pour une soirée. Et puis, ça peut être pour un événement, un anniversaire, un after work, un EVJF, que sais-je. Ou alors pour une après-midi toute simple entre amis ou en famille.
Donc, tout commence en 2016. La plateforme, elle est lancée en
2017. Oui, tout à fait.
Été 2017.
Voilà.
Et là, vous avez combien de piscines qui sont mises à disposition et combien de clients?
Oui, alors aujourd'hui, on a un peu plus de 20 000 utilisateurs sur la plateforme et on recense à peu près 1000 piscines partout en France. Donc vraiment, aujourd'hui, on a le service commence à fonctionner. Bien sûr, on a le nerf de la guerre, c'est vraiment les propriétaires. Le service est de plus en plus connu. Et on essaye vraiment de faciliter la mise à disposition de ces piscines et surtout l'utilisation de Swimmy pour les propriétaires pour que ce soit très simple à utiliser pour eux, qu'il n'ait que 2 ou 3 clics à faire pour accepter les locataires. Bien sûr, ils ont accès au profil de ces personnes-là. Donc, tout est assez sécurisé. Les locations sont assurées par la
Maïf. On sait qui vient chez soi et inversement, on sait où on va aussi. Oui. C'est vrai que les Français aiment la baignade, hein, Benjamin?
On compte plus de 2,5 millions de piscines privées en France, dont la moitié sont enterrées. Alors, ça fait de nous le numéro 1 mondial et ça devrait augmenter dans les années à venir. Alors, sans surprise, ces piscines, on les retrouve dans le sud-est. Et puis, en moyenne, elles font 37 mètres carrés.
Vous êtes sur tout le territoire aujourd'hui?
Oui, alors on est sur tout le territoire. On va bientôt ouvrir en Espagne, d'ici quelques semaines.
Internationalisation,
mois.
Parce qu'il n'y a pas de concurrents étrangers?
Alors pour l'instant, non. On y va.
Cocorico.
L'idée, c'est de pour l'instant quand même aussi bien se développer en France. Et puis pourquoi pas aller en Espagne déjà pour cette saison-là.
Catherine, notre coach.
Alors j'aurais deux questions. La première, est-ce qu'il faut que les piscines soient sécurisées, qu'elles répondent à certaines normes? Ça c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des services de conciergerie autour, comme Airbnb, ben, des proprios qui ne sont pas là, qui ont une piscine qui n'est pas utilisée pendant les vacances? Est-ce que vous proposez ça en parallèle ou est-ce que ça s'est développé autour?
Bien sûr. Alors pour votre première question, donc oui, aujourd'hui les propriétaires doivent certifier que leur piscine est conforme à la loi de sécurité de 2003. Donc ils demandent aux propriétaires en fait d'avoir au moins un des quatre éléments de sécurité qui sont indispensables. Mais souvent en fait les constructeurs le font, je veux dire en tout cas le propose très fortement. Et donc ça, c'est une première chose pour les propriétaires. Et la seconde chose, donc le service de conciergerie, oui. Donc nous, c'est ce qu'on incite de plus en plus nos propriétaires qui sont absents à mettre en place, c'est exactement comme sur Airbnb, soit un petit code d'accès qui permette en fait aux locataires de venir en fait chez lui sans qu'il ait à être présent sur place. Donc aujourd'hui, il existe plusieurs systèmes. Donc nous, bien sûr, on accompagne tous nos propriétaires sur la mise en place de ce système-là.
Vous parliez d'être sur place, justement. Il y a plusieurs possibilités, hein. Les propriétaires ne sont pas forcés de quitter leur domicile. Ils peuvent tout simplement décider de rester.
Ah oui, bien sûr.
Ça se voit régulièrement, je suppose.
Oui, et d'ailleurs, pour l'instant, nous, la plupart des propriétaires sont sur place aujourd'hui. Donc ils accueillent les locataires. Voilà, ils leur montrent la piscine. Et ensuite, voilà, ils les laissent tranquilles et tout se passe globalement bien. Ensuite, nous, voilà, on essaye vraiment de développer le fait que les propriétaires ne sont pas obligés d'être chez eux et peuvent, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de passer par la maison pour avoir accès à la piscine.
Souvent. Directement par le jardin.
Exactement. Donc, si vous avez un portail qui peut s'ouvrir de l'extérieur par un code, et nous, on est partenaire avec des sociétés qui peuvent installer un petit système automatique qui permet même aux propriétaires d'ouvrir depuis son portable son portail et donc de permettre aux locataires d'aller se baigner sans que les propriétaires soient là.
Combien de piscines au début et combien de piscines aujourd'hui ?
Alors, zéro piscine au début.
Ouais. Non, mais les premiers mois.
Oui, les premiers mois. Il me semble qu'on a dû finir la première saison à 60-65 piscines. Enfin, le tout premier, puisqu'on avait lancé en juillet 2017. Enfin, c'était vraiment le tout début. Et là, on atteint la 1109e piscine, il me semble.
Et vous êtes combien aujourd'hui chez Swimmy ?
Eh bien là, on est 5 et on travaille avec aussi beaucoup de freelance, beaucoup de personnes et d'agences extérieures. Donc voilà, ça se développe petit à petit.
Et est-ce qu'on leur donne une note à la fin ?
Oui,
aux piscines ?
Oui, tout à fait. Il y a un commentaire qui est laissé par les locataires. Il y a un commentaire aussi qui est laissé du propriétaire au locataire. Donc c'est dans les deux sens, le commentaire. Comme ça permet vraiment au locataire de voir est-ce que finalement la piscine est conforme à la description. Et puis ça permet aussi au propriétaire de se renseigner un peu plus sur le locataire. Est-ce qu'il a déjà fait des locations? Et puis voilà, le locataire bien sûr peut mettre une petite bio, une photo. Voilà, donc tout est fait pour vraiment mettre en confiance les utilisateurs.
Et vous parliez tout à l'heure de l'Espagne pour l'international, d'autres pays à venir, peut-être l'Italie, en tout cas les pays autour de la France ?
Oui, les pays autour de la France. On aimerait bien les États-Unis, parce que quand même, 10 millions de piscines privées aux États-Unis. Donc voilà, mais bon, déjà, on va humblement commencer à bien développer en France, à aller en Espagne, et puis on verra pour la suite.
On reste ensemble et on continue à parler piscines aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h10.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et avant de mettre un orteil dans l'eau, il faut évidemment vérifier la température, la qualité aussi. Un nouveau produit le fait pour vous, il s'appelle Ophi. A tout de suite.
Bon début d'après-midi sur Europe 1, le meilleur de la France bouge avec Raphaël Duchemin. On parle des innovations françaises pour nos piscines.
Entretenir une piscine, ceux qui en ont savent que c'est tout un rituel. Il ne faut pas que l'eau tourne, que la pompe monte trop en pression. Il faut ajouter des produits pour adoucir, régler le pH. Bref, c'est un véritable travail avant de pouvoir plonger. Vous serez d'accord avec moi, je suppose, Annick Le Billon. Bonjour.
Oui, bonjour. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Oui, vous êtes la présidente d'Azamgo et vous commercialisez un objet qui est juste à côté de moi. Si vous nous suivez sur europe1.fr, il s'appelle Ophi. Vous allez nous en parler. C'est une petite boule qu'on place dans la piscine et qui vérifie tout à notre place. Racontez-moi comment vous avez eu l'idée de la créer.
Alors tout d'abord, j'ai eu l'idée de la créer parce que je suis moi-même utilisatrice de piscine. Pour la petite histoire, je suis bretonne et brestoise. Et on a construit dans notre piscine il y a 4 ans, dans notre jardin, pardon, une piscine il y a 4 ans. Et ça a été vite l'enfer pour moi. Je me suis retrouvée avec de l'eau verte, puis de l'eau laiteuse. Et j'ai usé et abusé de produits chimiques. Et un jour, en ouvrant mes volets, j'étais avec ma petite languette derrière ma vitre et puis il pleuvait. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que de chez moi, je puisse savoir si je peux me baigner ou pas. Et j'avais déjà vu ces boules lumineuses qui flottaient sur les piscines, je trouvais ça très joli. Et je me suis dit, ben voilà, il me faut une boule qui, suivant la couleur, me dise, c'est bon ou c'est pas bon.
Et donc, vous commencez à réfléchir à un projet pour mettre quelque chose dans cette fameuse boule, hein, qui puisse effectivement nous indiquer si on peut y aller ou pas, ou si on, il faut rajouter des produits. Qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur pour qu'elle puisse justement nous parler?
À l'intérieur d'OFI, il y a 4 sondes, une sonde de pH, une sonde de température, une de redox et de conductivité. On a travaillé avec une équipe du CNRS à l'Université de Bretagne occidentale à Brest. Ils nous ont aidés à sélectionner ces sondes et à mettre au point les algorithmes.
Vous vous lancez vraiment en juillet 2017, c'est ça?
Alors, la société est créée en juillet 2016 et le produit commence à être commercialisé en 2017, tout à fait.
Et alors, OFI, puisque oui, c'est son nom, alors ça a une signification presque comme OVNI finalement.
Hein, oui,
c'est
oui,
un objet flottant intelligent, c'est ça?
Voilà, tout à fait.
Et alors, OFI, lui, est disponible depuis quand?
Alors, il est disponible depuis, la production, la nouvelle version de cette année, il est disponible depuis le mois d'avril, donc vous pouvez le commander sur notre site internet en direct.
Vous avez déjà un développement intéressant, je crois, parce qu'il y a un millier vendu, une centaine l'année dernière,
alors,
c'est ça?
L'année dernière, on a fait, c'était comme un test en réel, et cette année, donc, on a vraiment commencé la commercialisation, on est effectivement à environ un millier de pièces vendues sur toute l'Europe.
Que dit notre coach?
Alors que c'est très intéressant, est-ce que les piscines publiques, par exemple, peuvent commander ce produit? Parce que comme ça, on sait, enfin, celui qui va se baigner, qui n'a pas forcément confiance, le voit parce que c'est vert ou c'est rouge. Alors, est-ce que vous commencez à en avoir en piscine?
Alors, sur les piscines publiques, ce n'est pas possible aujourd'hui parce qu'elles sont soumises à réglementation. Il y a des indicateurs qu'on n'a pas encore avec OFI que les piscines publiques doivent remonter.
Je crois que Benjamin, vous avez trouvé quelque chose qui ressemble à OFI, mais qui a sûrement des différences. Un autre objet connecté aussi pour la piscine?
Oui, exactement. Un îlot connecté qui est bourré de capteurs, pareil, hein, très discret. Il s'appelle ICO et en fait, voilà, en permanence, il va mesurer la qualité de l'eau et vous prévenir sur votre smartphone sur les gestes à effectuer, voilà, s'il faut rééquilibrer le pH ou mettre plus de chlore, etc.
On se rend compte qu'on est de plus en plus attentif à la qualité de l'eau. C'est vraiment devenu quelque chose d'important. Avant, c'est vrai qu'on allait chez son pisciniste, on achetait des produits. Vous avez, vous, senti vraiment ce changement?
Oui, oui. Alors, effectivement, les gens cherchent à limiter les vidanges de leur bassin et à rationaliser l'utilisation de produits d'entretien, effectivement.
On fait beaucoup d'économies en ayant OFI dans notre piscine?
Alors, on a
en termes d'achat de produits, hein, évidemment.
Alors, en moyenne, on va dire 20% d'économies. Pour moi, 80%. Parce que je jetais tellement de produits que...
Ah oui, vous étiez une grosse utilisatrice. que vous disent les gens qui ont acheté OFI? Quels sont les premiers retours? Ça a changé vraiment leur utilisation, leur manière de concevoir l'accès à la piscine?
Oui, oui, tout à fait. Alors, on a déjà beaucoup de clients qui ont des maisons secondaires et qui peuvent voir gérer leur piscine à distance. Et puis, c'est un objet qui met aussi beaucoup en valeur la piscine. Donc, c'est vrai que quand vous faites l'apéro le soir autour de la piscine avec les amis, c'est quelque chose
qui
est vraiment sympa.
C'est lumineux. Oui. On n'a pas besoin de le sortir, de le nettoyer? Comment
non.
ça se passe?
Non, non. Vous pouvez le laisser dans l'eau.
Il est autonome.
Autant que vous voulez. Il est totalement autonome. Il a une autonomie de plusieurs mois parce qu'il est muni d'un panneau solaire. Mm-hmm. Hein, donc, il va
donc
se recharger la journée. Mais si vous utilisez beaucoup la lumière, comme là, on l'a mis en mode disco, où la lumière change
on va danser
de
bientôt.
Couleur. on a une batterie qui est rechargeable à l'intérieur, une batterie qui est garantie 10 ans et vous allez pouvoir recharger OFI si vous en avez besoin.
La suite, c'est quoi? Il y a des petits frères, des petites sœurs à OFI?
Alors, on a envie effectivement d'élargir la gamme. On va partir sur peut-être une petite sœur, un baby OFI plus petit. Oui.
Catherine?
Et surtout... ça permet de monitorer sur téléphone mobile, c'est ça? Est-ce que vous faites des suggestions en parallèle?
Alors tout à fait, on va demander à l'utilisateur de rentrer les paramètres de sa piscine, le volume d'eau et les traitements qu'il utilise, et après l'application va lui envoyer des notifications et des conseils personnalisés sur ce qu'il a exactement à faire pour garder une eau propice à la baignade.
Est-ce que vous pourriez imaginer, c'est une question qui m'est soufflée par Thomas, notre réalisateur, est-ce que vous pourriez imaginer quelque chose qui permette de distribuer aussi automatiquement les produits quand c'est nécessaire?
Alors c'est effectivement quelque chose vers là où on voudrait aller.
Oui, je vous vois vous tourner.
On va dire pas à pas.
D'abord, de l'autre côté de la vitre.
D'abord analyser et ensuite effectivement la prochaine étape c'est traiter.
Il y a beaucoup d'entreprises, hein, Benjamin, qui innovent justement dans l'univers de la piscine. Je crois que vous en avez trouvé quelques-unes.
Oui, un exemple à Marseille, une jeune société qui s'appelle WePool et qui a conçu en fait un plancher de piscine rétractable qui peut bien monter ou descendre. Et donc, ça permet de choisir un petit peu la hauteur de son bassin. Donc, bah, voilà, soit garder votre piscine, soit on le relève le fond, on relève le fond pour le transformer en une pataugeoire pour les enfants, voire même le remonter totalement pour en faire une grande terrasse.
On reste ensemble, on continue à plonger dans le grand bain aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et pourquoi ne pas avoir une piscine naturelle? Oui, c'est possible et c'est Biopooltech qui vous la propose. À tout de suite sur Europe 1.
C'est l'été, il fait chaud, une piscine pour barboter, se rafraîchir, apprendre à nager. Quelles innovations françaises ont été retenues par la France Bouge? C'est le meilleur avec Raphaël Duchemin.
Vous avez peut-être déjà une piscine, mais vous cherchez à rendre votre bassin plus écologique. Eh bien, sachez que oui, c'est possible. Bonjour Emmanuel Berthaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé Biopooltech avec une idée. Vous m'arrêterez si je me trompe, dire stop justement aux fameux produits chimiques dont nous parlions et avoir de l'eau plus propre, plus saine quand on se baigne, créer une piscine écolo en fait. Comment est-ce que ça vous est venu cette idée?
L'eau se régénère depuis des millénaires sans nous, sans l'intervention de l'homme. Donc on s'est dit finalement, est-ce qu'on ne peut pas copier la nature? C'est que depuis 50 ans qu'on utilise de la chimie. Et donc, c'est ce qu'on a fait.
Oui, une sorte de biomimétisme, finalement.
Exactement.
On est en 2011, quand tout démarre?
Alors, on est en 2011, quand on démarre les expérimentations. Voilà, pendant, finalement, plusieurs années, on va travailler sur le sujet pour pouvoir développer un savoir-faire et des technologies. Et on crée concrètement une entreprise dédiée à ça en 2016, été 2016.
Alors, c'est vrai que vous vous rendez compte aussi que c'est un marché qui va bien, qui se porte même très bien, le marché de la piscine. Mais vous vous rendez compte en même temps qu'il n'est effectivement pas forcément très vertueux.
Aujourd'hui, il y a plus d'un quart de la population mondiale qui se baigne dans des piscines. C'est-à-dire que sur 7 milliards et demi de personnes, il y en a quand même plus de 2 milliards qui se baignent dans des piscines. Donc c'est quand même un enjeu environnemental majeur sur le plan mondial. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a toute une problématique cancérigène, etc., qui sont issues de la chimie. Donc on peut faire autrement. Et la question, c'était de le faire et de le faire bien.
Alors comment fait-on autrement, justement?
Eh bien, dans la nature, vous avez sur les bords des rivières, ce qu'on appelle les zones lagunaires. Donc l'eau va se filtrer naturellement dans ces zones. Et puis vous avez le soleil qui vient taper sur la surface de l'eau et donc les UV solaires qui viennent contribuer à la stérilisation de l'eau. Donc ces deux grandes étapes, finalement, sont faites par notre système de filtration. Et on va donc recréer un biofiltre qui va copier, va faire un lagunage artificiel et donc va filtrer toutes les particules qui sont dans l'eau. Et ensuite, on va stériliser l'eau par des UV à haute concentration. Et donc, on va ressortir avec une eau potable dans le bassin. Et tout ça, c'est piloté par de l'intelligence artificielle et intégralement contrôlé avec son smartphone à distance.
Donc, tout est dans un petit boîtier qui communique finalement avec le smartphone?
Alors, c'est tout le système de filtration qu'on remplace. Donc, ça prend la même place que votre système actuel. Mm-hmm. On enlève le filtre à sable, on enlève le...
Ça s'appelle Biopool Safe, c'est ça?
Exactement. On enlève donc tous les équipements qui étaient présents dans le local technique, si c'était une piscine existante. Puis, si c'est une piscine neuve, on va le mettre en place du système existant.
Et alors, vous avez un autre produit qui est le bassin O2 Pool,
oui.
C'est ça. Alors là, c'est complètement autre chose. Vous utilisez des matières naturelles, évidemment, pour remplacer les piscines en béton, par exemple.
Et alors, en effet, c'est notre savoir-faire, on l'a développé en partant de là, notre expérience, puisqu'on a développé un système constructif qui est une sorte de jeu de Lego en bois, mais fait pour faire de la construction haut de gamme. Donc, c'est l'usage moderne du bois. Et avec ce système-là, on a construit, entre autres, la piscine de The Camp, qui est d'ailleurs une piscine publique, qui est notre première piscine publique et qui est un vrai succès. C'est une semi-olympique. Elle a vu plus de 5000 baigneurs l'année dernière avec des résultats parfaits surveillés par l'Agence régionale de santé. Donc en plus, elle a aussi démontré non seulement la faisabilité technique et la qualité de ce produit sur le plan constructif, mais aussi la qualité de cette filtration, puisqu'on travaille avec la même filtration.
On est obligé de déposer les piscines et d'en refaire une, ou on peut venir finalement rajouter le bois sur le liner ou sur le béton?
On peut totalement réhabiliter une piscine. Alors c'est vrai que les gens le font moins, puisque c'est le même coût qu'une piscine. Donc on peut réhabiliter complètement une piscine. Donc une piscine qui va être très ancienne, ça vaudra le coup. La majorité de nos ventes se faisant plutôt sur des constructions neuves, parce qu'aujourd'hui, il se vend quand même 150 piscines neuves par jour en France.
Est-ce que ça veut dire qu'avec tout ça, est-ce que ça veut dire que je peux boire l'eau de ma piscine,
et
vu qu'elle est potable?
Et oui. En sortie de filtration, vous avez de l'eau potable. Ça veut dire que si vous avez envie de prendre votre pastis avec votre piscine, ça roule.
Que dit notre coach de cette initiative de Biopooltech ?
Alors, est-ce que les propriétaires déjà sont de plus en plus sensibilisés ? Est-ce qu'on vient de plus en plus vous voir ? Et même question tout à l'heure par rapport au marché public. Est-ce que vous pouvez répondre aujourd'hui à des marchés publics de grande envergure ? Vous citiez The Camp, par exemple.
Alors, c'est vrai qu'on a une... Bon, évidemment, on a construit un produit qui répond à une demande, aux attentes du marché. C'est-à-dire que le bio est en poupe et il a le vent en poupe. Et donc, c'est vrai que ça nous tire et ça nous pousse énormément. D'avoir eu ce prix au CES aussi nous a aussi aidé beaucoup.
Au CES de Las Vegas, oui.
Exactement. Donc cette filtration a été primée au CES de Las Vegas. Donc sur la partie piscine publique, on a entre autres donc réalisé The Camp, qui est surveillé par l'ARS. Donc oui, le produit est adapté. On a finalement deux gammes, une gamme pour le public, une gamme pour le résidentiel. Et on va répondre exactement aux attentes de chacun de ces marchés, et en sachant qu'on est dans une approche de distribution par réseau qu'on a construit et de franchise.
Ce système, Biopool Safe, est en autogestion ou on est obligé d'intervenir régulièrement pour faire des vérifications ?
Alors on a deux niveaux de fonctionnement, c'est-à-dire en fonction de son budget, et la version la top, celle qui est vraiment la plus complète, est complètement autonome, c'est-à-dire que vous pouvez partir tranquillement pendant un mois de chez vous, vous n'avez rien à faire. Et là, dans ce cas-là, il n'y a même plus besoin d'injecter de chimie, puisqu'il n'y a pas de chimie. C'est-à-dire qu'on va régénérer l'eau sans souci, le système va s'auto-rincer, va savoir quand il doit le faire, et on va vraiment gagner en simplicité. Moi, je l'ai découvert sur ma piscine l'été dernier, et c'est vrai que c'est magique, quoi.
Vous parliez prix, justement. Combien faut-il débourser pour avoir Biopool Safe à la maison ?
Alors, en fait, ça va démarrer pour les petites piscines à 6 000 euros et ça va ensuite grimper en fonction de la taille de la piscine. Donc, ça reste un budget accessible. C'est le système complet de filtration. On est dans les systèmes haut de gamme. On est finalement pas plus cher qu'un autre système. L'écologie ne coûte pas plus cher.
Et il n'y a pas de produits à acheter, ce qui est aussi une économie finalement.
Il n'y a pas de chimie à acheter. On a des consommables qui servent à faire fonctionner le système de filtration, puisqu'on se base sur la vie. Dans le corps, vous avez 12 milliards de bactéries ou 13 milliards. Et donc on a en fait ce qu'on appelle un petit consortium, qui est un petit cocktail qui sert à faire vivre ce filtre pour pouvoir bien copier la nature. Et puis un petit anti-algue naturel qui va faire que votre paroi sera toujours parfaitement propre.
Benjamin, il y a une autre tendance aujourd'hui, ce sont les abris de piscine.
Oui, parce que vous avez envie de profiter de votre piscine toute l'année, même l'hiver parfois. Alors, on s'équipe d'abris. L'avantage, c'est que d'une part, ça vous protège de la pluie et puis aussi, ça conserve la chaleur. Et d'après la récente étude menée par la Fédération des professionnels de la piscine, eh bien, plus de 10% des piscines françaises sont désormais équipées. Il existe 40 fabricants français qui se partagent le marché. Et pour le prix, il faut compter entre 7 000 et 25 000 euros.
Quand il y a une couverture, est-ce que ça pose un problème ?
Alors ça fonctionne en intérieur comme en extérieur. Donc on a un quart de nos piscines qui sont faites en intérieur. Donc ça fonctionne tout aussi bien. À la limite, c'est presque plus difficile en extérieur, je vais dire, parce qu'on a moins de contraintes en intérieur, parce qu'on a moins d'apports issus de l'environnement. Et on a d'ailleurs développé un système de fermeture par fond mobile qui permet de reprendre le fond et de fermer comme un système d'ascenseur et de répondre à la problématique de la couverture qui est un produit qu'on lance en ce moment. Ouais, donc,
On reste ensemble ? On continue à parler piscine aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h26.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Avec vous aussi, bien sûr, Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge, c'est votre émission, on vous attend.
Europe 1.
Et sur Europe 1, le meilleur de la France bouge avec Raphaël Duchemin, il y a du nouveau côté piscine.
Nous sommes avec Catherine Testa, qui est notre coach aujourd'hui. Benjamin Lévesque est à mes côtés. Et nos invités, Raphaël de Monténard, fondatrice de Swimmy, le Airbnb, on va le dire comme ça, hein, de la piscine. Annick Le Bihan, présidente et cofondatrice d'Ofi by Azamgo d'ailleurs, qui analyse l'eau de notre piscine de manière connectée. Et puis Emmanuel Berthaud, qui est PDG et cofondateur de Biopooltech, piscine écologique avec biofiltration intelligente. Vous avez été, et vous l'avez signalé, primé au CES cette année à Las Vegas. On sent qu'il se passe quelque chose, hein. Vous le disiez Emmanuel tout à l'heure, il y a une prise de conscience qui est en train de s'opérer, y compris chez les propriétaires de piscines, pour aller vers quelque chose de plus naturel. Anissa nous disait tout à l'heure, comment on fait par exemple pour que ça ne tourne pas quand on a de la crème solaire ? Est-ce qu'on peut se baigner ? Est-ce qu'il faut enlever la crème solaire ? Ce sont des questions toutes bêtes finalement, mais auxquelles on pense pas forcément avant de plonger. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur la qualité de l'eau ?
Alors, sur une piscine biologique, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'en fait, les déchets en fait, qui vont être amenés vont être filtrés, vont être piégés, seront évacués. L'intérêt de la biofiltration, c'est qu'elle a, non seulement elle va vous donner une eau parfaite, mais en plus, elle va faire ce travail, c'est que tout ce qui va être capté va être biodégradé, elle va rendre finalement quelque chose de neutre à l'environnement. C'est-à-dire qu'elle est totalement neutre pour l'environnement.
Catherine,
est-ce qu'on commence à parler de bilan carbone d'une piscine? Est-ce que vous avez un peu travaillé, par exemple, avec l'ADEME, parce que vous prenez des matériaux innovants, en l'occurrence? Est-ce que vous avez un peu mesuré ça?
Alors, c'est même un piège à carbone. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, nos piscines, donc, comme on utilise du bois, le bois grandit, donc il consomme du carbone pour créer sa fibre de bois. Et une fois qu'il est dans l'eau, le bois fossilise, donc il ne bouge plus, il ne se dégrade plus. Donc, on a, grâce à ça, capté du carbone. Donc, faire des piscines de Pooltech, c'est une vraie démarche environnementale.
Et Anissa,
justement, en termes d'économie d'eau, est-ce qu'une piscine bio et écologique, on la vide et on la re-remplit aussi souvent qu'une piscine traditionnelle au chlore? Ou est-ce qu'une fois qu'elle est remplie, on la garde
et
tout
ben,
le temps?
Par exemple, j'ai une eau de 2012. Parce que justement, on n'a même pas besoin... En fait, la seule chose qu'on va mettre dans l'eau, c'est qu'on va remettre de l'eau parce qu'on fait des gros ploufs, parce qu'il y a de l'évaporation. Donc forcément, on en consomme un petit peu. Oui. Hein, on va consommer un tiers d'eau en moyenne sur l'année. Mais c'est magique parce que notre filtration s'occupe de régénérer l'eau. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à rajouter des additifs dans l'eau. On va s'occuper de restituer l'eau à son état initial.
Donc grosse économie.
Énorme. On divise par deux la consommation d'eau par rapport à une piscine traditionnelle, sans compter ce vidage de piscine une fois tous les trois ans.
Benjamin, si on manque de place pour installer une piscine dans son jardin, je crois que vous avez trouvé une solution.
Qui s'appelle Lift, hein, c'est un concept 100% français. Hein, ça permet de transformer votre piscine en terrasse en 60 secondes seulement. En fait, la start-up a conçu un plancher à base de coussins d'air qui se gonflent et qui se dégonflent, et puis des pieds rétractables qui permettent eh bien, le maintien et la stabilisation de la structure.
Et puis, on parlait des piscines écologiques, des piscines bio. Ouais, c'est quelque chose qui marche aussi ailleurs. Hein.
Oui, c'est un concept qui est né dans les années 80 en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Et les piscines biologiques sont apparues en France dans les années 2000 à peu près. Alors, je veux vous parler, il y a une start-up Azuvia qui s'est lancée il y a quelques mois dans des plantes qui traitent l'eau des piscines. Et ce, pour remplacer bien les produits chimiques.
On me faisait remarquer tout à l'heure qu'on a parlé tarifs avec vous, évidemment, Emmanuel Berthaud, mais on n'a pas donné forcément toutes les indications. Donc, Raphaël, pour Swimmy, on a dit ce que ça coûtait pour les propriétaires. On n'a pas dit si on veut venir s'inscrire sur Swimmy, si on veut passer une après-midi à la piscine, comment ça se passe, combien ça nous coûte?
Alors pour Swimmy,
est-ce qu'il y a des systèmes d'abonnement, enfin toutes ces choses?
Bien sûr. Et donc nous, Swimmy Airbnb de la piscine, et pour les propriétaires, donc ça peut leur rapporter jusqu'à 5 800 € dans la saison. Oui. Après, la moyenne, c'est plutôt 1 300 € par mois, mm-hmm. Environ. Et pour le locataire, l'utilisateur qui veut venir se baigner dans une piscine privée, ça coûte à peu près 15 € la demi-journée par personne. On a un tarif spécial aujourd'hui pour les enfants. Les moins de 12 ans, c'est moins 50%. C'est gratuit pour les moins de 3 ans. Voilà.
Et vous avez des systèmes d'abonnement?
Non, pour l'instant, on n'a pas de système d'abonnement. C'est vraiment du one shot. Vous venez, donc vous payez. Vous venez à 5, vous payez pour 5 personnes. Si vous venez avec des enfants, voilà, vous payez un tarif spécial pour les enfants.
Annick Le Bihan, même question pour vous. On n'a pas parlé des tarifs pour Ophi. Combien ça coûte pour pouvoir avoir cet objet flottant intelligent dans notre piscine?
Alors, Ophi coûte 459 €. Et derrière, il n'y a pas d'abonnement pour le client. C'est rechargeable, donc c'est 459 € et c'est tout.
Vous avez déjà une idée du prochain produit, hein, vous m'avez dit tout à l'heure. Ce serait quelque chose que vous imagineriez commercialiser à quelle échéance?
On aimerait bien.
Vous êtes en train de travailler sur le prototype?
Oui, tout à fait. On aimerait bien pouvoir proposer en 2020 un nouveau produit.
Un nouveau produit en 2020. Catherine,
est-ce que vous avez un peu mesuré l'obsolescence de votre produit? Ça peut tenir pendant 10 ans dans une piscine? Comment ça va savoir?
Alors, en termes d'autonomie et de batterie, ça peut durer très très longtemps. Maintenant, les sondes, elles sont très fragiles. Il faut les garder dans un milieu humide. Elles seront à changer entre 2 et 3 ans. Les 2 ou 3 ans.
Ce sont des produits français? Vous travaillez avec des entreprises françaises?
Oui, enfin, majoritairement bretonnes.
Oui,
oui.
C'est très bien de travailler avec des gens qui sont juste à côté, hein. Moi, je trouve ça formidable. C'est encore mieux si on peut le faire. Même question pour vous, vous êtes dans le sud, hein.
Oui, on est basé à Aix-en-Provence, oui.
Et vous avez des fournisseurs qui sont aussi dans le sud?
Oui, le bois d'abord vient de forêts éco-gérées, donc issues du Massif central. Donc on est sur des familles de bois qui ont d'ailleurs servi à construire Venise. Donc il y a une belle référence historique dans la relation du bois à l'eau. Et en effet, tous les autres produits, si on a des fournisseurs qu'on ne trouve pas en France, on va chercher à tout prix en Europe. Et exceptionnellement, on ira plus loin si c'est nécessaire.
Merci d'être venu.
Merci.
Merci à vous.
Il est 13h37.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Restez avec nous. Elle est née dans la plus connue des cités du Var. La tarte tropézienne est aujourd'hui l'entreprise qui va bien. Merci.
La France bouge, le meilleur chaque jour cet été jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et c'est l'entreprise qui va bien.
Oui, cette entreprise, évidemment, vous la connaissez tous, la tarte tropézienne. Bonjour Albert Dufresne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous venez réveiller des souvenirs chez moi, notamment qui suis varoise, parce que quand j'étais enfant, c'était chez Mika, évidemment, son inventeur, que nous allions l'acheter en famille. Racontez-moi comment en 1955, ce Polonais, parce qu'il est Polonais, débarque à Saint-Tropez. Et à l'idée de créer ce gâteau qui existait déjà ?
Alors en fait, Mika est arrivé avec le débarquement. Et il a monté sa petite boutique à Saint-Tropez.
En
face de la mairie.
Elle est toujours là d'ailleurs ?
Elle a bougé parce que...
Mais il y a toujours une tarte tropézienne à Saint-Tropez.
Il y en a trois. Il n'y a pas de problème. Et donc, Mika est arrivé comme ça, par le débarquement, et il a commencé à faire sa pâtisserie en face de la mairie. Et comme tous les tropéziens, il a eu la chance que Madame Bardot arrive, Vadim, et vous connaissez l'histoire, le film et tout. Et lui, il avait sa petite pâtisserie. Tout le monde venait goûter sa pâtisserie, son salé aussi, puisqu'il faisait tout. Mais par contre, Brigitte Bardot est tombée amoureuse de ce produit.
Ça devient la tarte Brigitte au départ ?
Non, oui, un peu. Les gens disaient, elle le dit, il disait la tarte de Brigitte et tout. Chaque fois qu'il y avait des prises de vue sur Pamplonne et tout, elle ramenait le dessert pour le midi et tout. Et un jour, elle lui a dit, pourquoi tu l'appelles pas la tarte de Saint-Tropez ? Et voilà, c'est parti comme ça.
Et la tropézienne est née.
La tropézienne est née.
Et du coup, il dépose la marque et le brevet.
Bien sûr, bien sûr. Mika a tout déposé, la marque, le brevet. Et en plus, Madame Bardot est la marraine officielle de l'entreprise.
Évidemment. Alors dites-moi, comment est-ce que vous, un Savoyard, arrive dans cette aventure très varoise ? Pardon.
C'est vrai. Alors c'est une histoire d'homme quand même, parce que, et de femme, puisque Mika, en deuxième noce, a épousé une Haut-Savoyarde. Et donc un jour...
C'est comme ça que vous le rencontrez. On est absolument. Quoi, dans les années 80 ?
Voilà. Et je vante à mon père que je vais aller sur Saint-Tropez et tout, en pensant lui dire un truc extraordinaire. Et il me dit, si tu vas à Saint-Tropez, il faut descendre, je te donnerai des reblochons, de la promont, qui sont les fleurons de la Haute-Savoie, et tu mèneras ça à Cogolin, un pâtissier que j'ai rencontré parce qu'il a marié une Haute-Savoyarde et maintenant il s'est livré un peu la farine d'un copain Haute-Savoie et tout, et voilà. Et je lui ai mené les produits et je suis remonté avec des tartes tropéziennes.
Et puis vous restez, vous restez en contact.
Bien sûr.
C'est
comme ça qu'il me... Toutes les années, il me disait, j'ai vendu, je vais vendre, ça y est, j'ai peut-être trouvé quelqu'un et tout, mais enfin, il avait... Une super marque, un super produit, mais par contre c'était une bête de travail, donc ils se sauvaient tous, parce qu'on dormait pas beaucoup avec lui, et il fallait être là jour et nuit pratiquement. Et un jour je lui ai dit, allez je tente, je viens.
C'est quand ? Quelle année ?
85. Janvier 85, je suis arrivé, en lui faisant promettre qu'il reste avec moi un an ou deux pour me mettre dans le coup par rapport à son produit. Il m'a donné la marque, il m'a donné
la recette,
et il m'a dit surtout tu changes rien, parce que vous savez qu'au bout de 20 ans, le brevet peut tomber dans le domaine public.
Oui.
Donc, mais par contre, la recette, il fallait rien changer. J'ai rien changé.
Oui, on le voit d'ailleurs, hein, parce qu'elle est là avec nous, cette tarte tropézienne, sur Europe 1. Si vous nous suivez sur Europe 1.fr, il y a même les bébés tropéziennes maintenant, parce que vous avez innové forcément, vous avez modernisé aussi l'image de la tropézienne.
En fait, on a essayé, monsieur Alexandre Mika, il travaillait, il avait sa tarte tropézienne, il faisait un peu de pâtisserie, mais il ne faisait pas, on appelle ça de la pâtisserie boulangère, c'est-à-dire un produit très simple et tout, donc moi je voulais un peu quand même changer les choses, sans toucher aux produits phares de l'entreprise, mais je voulais quand même apporter autre chose, parce que l'hiver, on est quand même une région où il n'y a pas beaucoup de travail, donc il fallait faire autre chose, il fallait faire du pain. Donc je me suis lancé aussi dans la boulangerie, et c'est comme ça qu'on a progressé, et qu'on a pu aussi aller dans des villes comme hier, des villes comme Toulon.
Oui, sur le boulevard Gambetta, ailleurs.
Oui, parce qu'il nous fallait, je vois que vous connaissez bien, il nous fallait absolument, mes pâtissiers, moi je voulais les garder l'hiver. Il n'y avait pas 36 solutions. Mika avait tellement d'expérience. Lui pouvait avoir des saisonniers parce que lui ne dormait jamais. Mais moi, je voulais avoir des gars. Et pour les garder l'hiver, il fallait que je leur trouve du travail. Voilà pourquoi j'ai commencé à faire ça.
Que dit notre coach de cette formidable aventure ?
Alors, vous avez gardé la recette, mais vous êtes aussi profondément modernisé. Vous avez un site web aujourd'hui. J'ai vu que vous adaptez en fonction des fêtes. Par exemple, la fête des mères bientôt. Est-ce qu'on vous livrait partout de
fête ?
Bien
sûr. Bien sûr, c'est ma fille qui gère ça. D'accord. L'e-commerce. Et qui,
vous travaillez avec vos deux enfants, hein, d'ailleurs.
Oui, oui, mes trois enfants sont avec moi.
Ah, trois. Bon.
Donc, j'ai ma fille qui s'occupe de l'e-commerce et qui, on travaille avec une boîte, bien sûr, qui nous livre tous nos produits. On est encore au balbutiement. Hein. C'est pas évident quand même de livrer comme ça des produits dans toute la France. Ça devrait s'améliorer puisque ils nous ont promis de pouvoir livrer en Italie, en Espagne et tout.
Mais combien de boutiques aujourd'hui
On a 19 boutiques et on en a 7 en franchise. Donc, ce qui fait que on a quand même, on a les retours de nos franchisés qui sont les premiers à nous critiquer. S'il y a un petit problème tout de suite le matin, je peux vous dire, ils sont livrés à 6h30 le matin de Cogolin. À 7h30, 8h, ça y est, s'il y a un problème sur un produit, on les a tous au téléphone pour savoir pourquoi ci, pourquoi là.
Dites-moi, la Tropézienne, on en voit ailleurs. Comment on fait pour savoir que c'est la vraie ?
Alors déjà, on est. Vous savez, moi j'ai ma petite pub dessous. Souvent, je mets souvent imité, jamais égalé, parce que au début, ça me faisait rire. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça me. Même Mika, hein, il me disait mais tout le monde veut en faire et tout. Mais tant qu'on la fera comme ça et tout, tu t'inquiètes pas. Et voilà, c'est parti comme ça. Mais aujourd'hui, même les industriels essayent d'en faire et d'en mettre dans les supermarchés et tout. Alors ils font déjà certains de très pâles copies, uniquement parce qu'ils tirent sur le produit, sur le prix de revient du produit. Donc ça, c'est pas possible. Il y a un moment où c'est plus possible. Vous n'avez pas la qualité. Et en plus, alors ils l'appellent, ils se défaussent un peu en l'appelant la tarte de Saint-Tropez, le ci, le là. Mais nous, c'est vraiment l'original du créateur d'Alexandre Mika.
La tarte tropézienne.
La véritable tarte tropézienne.
Et c'est aussi le nom de l'entreprise que
Absolument.
Vous défendez aujourd'hui.
Voilà.
Merci d'être venu.
Eh bien, écoutez, c'est moi qui
vous
en remercie.
Et bravo.
Je vous demanderai surtout une chose, c'est de rester gourmand.
Oh, ne vous inquiétez pas dessus.
Ça va
on va suivre votre conseil. Merci d'être venu aujourd'hui
Merci.
Sur Europe 1.
Il est 13h46.
Europe 1.
Boire un vin ou un cocktail, mais sans être ivre, c'est possible. La solution, c'est Gueule de Joie, lancée bientôt au mois de juin. A tout de suite.
Vous retrouvez Raphaël Duchemin sur Europe 1. La France bouge, le meilleur et avec la solution.
Pour la toute première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la consommation d'alcool ne baisse plus en France. Eh bien, pour lutter contre ça, Benjamin Lévesque, il existe Gueule de Joie.
Oui, c'est un distributeur de boissons sans alcool. Alors, vous avez le choix entre du vin, de la bière ou des cocktails. La start-up nantaise va même lancer son site internet de commandant en ligne cet été. Une alternative quand on sait que 41 000 décès sont dus à l'alcool chaque année en France. Bonjour Jean-Philippe Brault.
Bonjour.
Vous avez fondé donc Gueule de Joie. Cette idée, elle est arrivée comment ?
Cette idée, elle est arrivée il y a un an, alors que je vivais l'expérience d'un mois de janvier sans alcool. C'est un phénomène anglo-saxon dont on entend de plus en plus parler.
On n'a pas réussi
ici. Qu'on le fait aussi en France.
On a essayé. Mais c'est difficile. En fait, c'est difficile à faire. Et c'est là que j'ai fait un constat. Si on veut rien changer à ses habitudes de consommation, c'est-à-dire sortir, voir des amis, passer des moments de convivialité, il est très difficile de trouver d'autres alternatives que l'eau, les jus, les sodas, qui sont par ailleurs des très bons produits. Mais quand on aime le vin, la bière, eh bien, c'est quasiment impossible de trouver des produits qui adoptent les mêmes codes de consommation. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis en quête bien de trouver des solutions qui existent. On a découvert un monde insoupçonné de produits de qualité qui ont du goût en France et à l'étranger.
Justement, avec vos boissons, qu'est-ce qui fait que je ne vais pas me sentir isolé
Alors attendez,
soirée.
Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai un cola rhum.
Vous avez un Cuba Libre pour les soirées.
J'ai une bière, un
brewdog, une bière écossaise. En fait, nous, on a fait le choix d'être sur trois segments de marché qui correspondent à des temps de consommation en soirée, accompagné d'un bon repas. La bière se démocratise énormément en France et on voulait apporter une solution de qualité. Pour ça, on a trouvé des produits qui viennent de vrais brasseurs. Alors, pas en France, malheureusement.
À l'étranger, où ça?
À l'étranger, Écosse avec Brewdog, Mikkeller au Danemark, on a... des produits en Angleterre, on a Berlot en Allemagne. Ce sont des vrais brasseurs, des gens qui brassent depuis des années, qui mettent au service du sans-alcool tout leur savoir-faire. Et c'est ce qu'on ne sait pas encore faire en France aujourd'hui avec le vin.
Ça veut dire qu'on remplace l'alcool par autre chose ?
Alors pas du tout, on ne remplace pas. C'est-à-dire que la recette est la même. Simplement, on a une fermentation qui est beaucoup plus rapide et à plus faible température. Et il y a des systèmes d'évaporation de l'alcool. Le défi, c'est que les arômes ne s'évaporent pas. Ça demande beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus complexe. Et on doit travailler avec des matières premières qui sont de meilleure qualité.
Donc le vin, par exemple, n'est pas un jus de raisin ?
Alors, c'est une bonne remarque. Le vin, c'est encore un peu particulier par rapport à la bière. Le vin, c'est un produit sans alcool, c'est un produit qui a ses propres caractéristiques. On va le situer à mi-chemin entre le vin, comme on le connaît, comme on a l'habitude de le consommer, et le jus de raisin. Par définition, s'il n'y a pas d'alcool, le produit porte énormément sur le produit, sur le raisin, sur le fruit. Donc c'est quelque chose qui est très gourmand, mais qui n'est pas du tout sucré. Des produits qui sont très agréables à consommer, notamment avec une tropézienne cet été.
On va essayer, comptez sur nous. Que dit notre coach ?
Vous venez de terminer une campagne
de financement participatif,
exactement. Ça a cartonné, j'ai l'impression. Vous avez eu combien de contributeurs ? Ils vont vous suivre du coup dans cette aventure.
Ouais, cette campagne, c'était les débuts. C'était pour nous l'occasion de tester notre concept. Ça a plutôt bien fonctionné dans notre propre réseau. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui nous suivent. Et donc, on propose toujours en précommande nos box, les boissons que nous commercialisons. Elles sont disponibles si on va sur gueuledejoie.com ou sur Ulule, il y a une plateforme qui est dédiée, donc les gens peuvent toujours s'approvisionner. C'est de la précommande et notre stock, nous, arrive à la fin du mois de mai. Cette campagne nous a permis de générer une partie de ce stock pour délivrer un premier site e-commerce courant du mois de juin et complètement libérer l'accès à ce type de boisson.
Le nom Gueule de Joie, c'est pour décomplexer
Vous avez raison,
c'est le clin d'œil à Gueule de Bois, non?
Exactement, ouais, évidemment. Mais en fait, nous, on est une entreprise qui est complètement décomplexée. C'est-à-dire on a une approche très positive du sans-alcool. Et donc, c'est un clin d'œil. Et je parlais tout à l'heure de trait d'union. C'est ça, le nom. On a un trait d'union entre l'alcool et le sans-alcool. On est une alternative. On n'empiète ni l'un, ni sur l'un, ni sur l'autre. Mais on a voilà, cette approche clin d'œil. Puis ça retire l'attention, c'est impertinent. Et dans un pays où on consomme énormément d'alcool, et notamment où le vin est très ancré dans nos habitudes, l'impertinence nous sert beaucoup pour faire parler de nous.
Et est-ce que vous n'avez pas intérêt à aller aussi dans les bars pour vendre vos boissons ?
Si, alors la consommation, elle se fait quand même plus à domicile qu'hors domicile. J'ai découvert ça. Les bars sont un vrai levier de développement pour nous. Néanmoins, aujourd'hui, on a des marges qui nous suffisent pas vraiment pour multiplier les intermédiaires. C'est-à-dire que c'est des produits qui sont rares, difficiles à provisionner, et donc des coûts unitaires qui sont assez élevés. Et quand on parle de sans alcool, c'est pas toujours évident à positionner. Donc, on le fait à la marge. L'objectif, c'est de générer du volume avec le temps, d'aller chercher de la croissance pour pouvoir adresser cette population professionnelle. Et on espère dans un second temps.
Ça s'appelle Gueule de Joie. Attention.
Attention.
Et c'est la solution aujourd'hui. Merci d'être venu nous la présenter.
C'était un plaisir. Merci à vous.
C'était Raphaël Duchemin et le meilleur de la France bouge. Et ce sera ainsi tout l'été entre 13h et 14h. Ces innovations françaises qui ont marqué l'année après nos piscines. Demain, toujours un parfum d'été et de vacances avec les attractions touristiques innovantes et françaises.